Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, on s'entretient avec Mathias Gabart, chef du marketing chez la célèbre entreprise Cookit. Mathias nous explique la nouvelle orientation de la marque ainsi que les résultats générés par les différentes actions. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au volet nouvelle du podcast Commerce Élite. Cette semaine, on veut vous parler de personnalisation des objets email. Oui, un classique, mais je pense que vous serez surpris, tout comme on l'a été, car on a défié le système et les résultats ont été révélateurs et on espère que ces résultats pourront vous aider dans vos campagnes emailing. On a fait des expérimentations avec différents clients de différentes industries. Notre objectif, voir l'impact de la personnalisation sur le taux d'ouverture des emails. On voulait revisiter cette théorie selon laquelle la personnalisation aide tout le temps à améliorer les résultats. Personnalisez vos objets d'email avec le prénom du destinataire et hop, le taux d'ouverture monte en flèche. Est-ce le cas? Est-ce réellement fonctionnel? Eh bien, nos résultats disent le contraire. Après environ 4 semaines de tests, nous avons comparé les taux d'ouverture email avec et sans personnalisation. Et là, surprise, les emails sans personnalisation ont fait mieux. Un taux d'ouverture moyen de 61,67% contre 58,10% pour les emails personnalisés. Notre conclusion. Parfois, la personnalisation peut être contre-productive. Notre raisonnement est le suivant. Cette technique est tellement cliché qu'elle semble affecter la confiance de la part des contacts. C'est comme le dicton « trop, c'est comme pas assez ». On est mieux parfois d'éviter ce cliché. Mais attention, les résultats peuvent varier en fonction de votre audience ou encore de votre campagne. Donc, la morale de l'histoire est de revisiter les techniques d'optimisation populaires et remettre en doute leur efficacité. Et pour la suite, on prévoit de tester 2 types d'objets email. D'un côté, les objets centrés sur le gain, comme 20% de rabais, et de l'autre, les objets qui mettent l'accent sur l'urgence, comme il reste 24 heures. On verra lequel suscite le plus d'intérêt et on retourne à nos campagnes de tests et on vous revient très vite avec nos résultats. À la prochaine et bon podcast! Comme tellement de catégories, les prêts à cuisiner ont totalement explosé pendant la COVID-19. Les gens étaient chez eux et soyons honnêtes, c'était plus simple de se faire livrer des aliments que de simplement aller à l'épicerie. Maintenant, que se déroule-t-il quand les choses reviennent à la normale, quand il n'y a plus de COVID? Doit-on revoir notre approche marketing? C'est le sujet qu'on aborde cette semaine sur le podcast avec Mathias Gabart, chef du marketing chez Cookit. Une discussion des plus fascinantes si votre catégorie a subi une croissance artificielle pendant la pandémie. Bonne écoute! On est de retour au volet discussion du podcast Commerce Élite et on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Mathias Gabart, CMO chez Cookit, un leader canadien dans les repas prêts à cuisiner. L'entreprise qui a vécu une croissance exponentielle pendant la COVID a dû se réajuster quand les choses sont redevenues à la normale dans les derniers mois et c'est ce dont on va discuter ensemble aujourd'hui. Mathias Gabart, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci. Merci à toi de m'accueillir.
Et Mathias, avant de parler de Cookit, on peut voir que tu as eu des très belles expériences en marketing. Tu as cofondé et été associé également de quelques agences de marketing numérique. Plus spécifiquement, tu as été également vice-président de l'expérience client numérique chez BRP. Donc, question simple pour commencer. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du marketing à la base?
Écoute, la première vraie réponse, parce que j'en ai une bien fausse, mais la vraie, c'est que je suis né dedans quand j'étais petit. Okay. Mon première réunion de branding, j'avais 14 ans. Ma famille est dans le milieu depuis 3 générations. Et évidemment, je me dirigeais vers ça quand c'est la première chose que j'ai appris avant même d'écrire. Je pense que derrière ça, quand je suis arrivé au Québec en 97, vous étiez très en avance au niveau Internet, puisque ça n'existait pas chez nous. On était encore sur des vieux systèmes. Et j'ai tout de suite compris que la technologie serait la moyen, mon moyen à moi d'exprimer mon marketing à moi. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Après, c'est une passion pour les marques, une passion pour le développement de marque et de l'expérience client. Mmh. Qui pour moi, va beaucoup plus loin que simplement la campagne de pub. Ça va jusqu'à vraiment comment tu transformes finalement des organisations basées sur cette stratégie qui est autour du consommateur finalement.
Mmh. Et moi, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de Cookit. Parce que Cookit, tu es arrivé dans l'organisation en novembre 2022, si je ne me trompe pas. Donc, moins d'un an maintenant, littéralement, dans quelques mois, ça va faire la première année que tu es dans l'organisation. L'entreprise, et j'avais eu la chance de discuter avec Judith sur un autre podcast qu'on a qui nous parlait, on était en plein dans la COVID à ce moment-là, qui nous parlait à quel point l'organisation doublait, triplait quasiment de chiffre d'affaires d'un mois à l'autre. Et c'est normal, c'est une organisation qui se prêtait bien à une réalité COVID. Ceci étant, les choses ont changé, les choses sont redevenues à la normale. Comment tu analyses l'organisation? Comment tu analyses le marketing de l'entreprise à ton arrivée? J'imagine que les choses ont dû pas mal changer dans les dernières années.
Ouais, puis tu le disais toi-même, c'est une folie qui s'est passée pendant la COVID. Tu disais à l'instant, on est revenu à la normale. Ah oui. Sommes-nous vraiment revenus à la normale? J'ai l'impression qu'il n'y aura plus vraiment de normale quand je regarde les informations. Je te dirais que on fête notre 9e anniversaire, on rentre dans la 10e année. Judith, que tu as rencontrée, a créé ça il y a donc 9 ans et elle est arrivée avec une véritable passion de l'expérience client, une véritable passion qui lui est venue de son expérience passée. Elle a travaillé dans l'hôtellerie, elle a travaillé dans des environnements où justement cette expérience est plus importante que tout. Et elle est arrivée avec un ADN très intéressant. Elle était la première à arriver au Canada avec cette offre de service. Et elle a travaillé, elle a tous les postes. Elle a fait les boîtes elle-même, elle a fait les recettes elle-même, elle a livré les boîtes elle-même, elle a fait le service à la clientèle elle-même. Et donc, elle a appris réellement ce qu'elle voulait faire comme expérience, comme service. Et à travers les années, elle a fait croître l'organisation et elle a eu une très, très belle croissance, même avant la pandémie. Et ce qui est intéressant, c'est que la pandémie arrive et là, elle est déjà dans un beau succès. Mais là, évidemment, ça propulse toute la catégorie. Et après, bah, cette croissance-là, que tu as appelée hyper-croissance, je crois, et c'est tout à fait le bon terme, elle est folle et elle a une fin. Mais en même temps, quand on regarde les chiffres, que ce soit de Cookit ou de qui que ce soit dans l'industrie, que ce soit au Québec, au Canada ou même au niveau mondial, ce qu'on voit, c'est que c'est revenu à quelque chose de beaucoup plus élevé de ce que c'était avant la pandémie. Moi, j'appelle ça la bulle pandémique. Mais si tu enlèves cette bulle pandémique, il y a une croissance assez stable de la catégorie, que ce soit pour Cookit et les autres. Et on est dans une des projections d'à peu près 15% de croissance annuelle pour une dizaine d'années à venir encore, sans problème. Et donc, c'est une croissance très saine et sereine, mais d'une catégorie qui est toute jeune. Ce sont des bébés marques encore aujourd'hui qui apprennent à faire du marketing, qui apprennent à faire de l'expérience client, apprennent à faire tout ça en même temps qu'à créer une catégorie. Donc, c'est intéressant. Et évidemment, bah, je suis arrivé dans une organisation où il fallait prendre connaissance de tout ça. Alors, évidemment, tu pourrais le voir après comme avec plein de défauts, cette jeunesse. Mais au contraire, elle a mis la table. Elle a donné des ADN à plusieurs et aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cet ADN-là.
Et dis-moi, tu nous parles d'ADN, revenir peut-être même à l'ADN de la marque, on en avait parlé toi et moi dans des échanges initiaux, mais si peut-être tu nous ramènes à ton arrivée, est-ce que tu sentais peut-être que le marketing était devenu facile? Est-ce que tu sentais qu'à un certain point, le client avait tellement besoin de ce service-là qu'on se posait moins des questions sur l'ADN de la marque, qu'on venait peut-être moins à la base et que ça impactait un peu, au final, l'expérience marketing qu'on faisait vivre à nos consommateurs?
Absolument. Et je pense que la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, ça a été de dire, bon, faut regarder la situation, faut analyser où est-ce qu'on en est, quelle est la marque Cookit, qu'est-ce qui a fait l'essence de cet ADN que Judith a créé, mais qu'est-ce qui a fait aussi l'essence des autres, qu'est-ce que chacun a voulu mener comme bataille. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était d'abord et avant tout de right-sizer l'organisation, parce qu'en fait, du marketing, mais je m'occupe aussi des technologies, des IT, du service à la clientèle, des ventes. Donc d'abord et avant tout, il fallait s'assurer que désormais, on avait la bonne taille, la bonne équipe, les bons talents dans une industrie, dans une entreprise qui est très, très jeune. Et donc, il fallait revoir tout ça. Donc, ça a été, je te dirais, un 6 premiers mois de très focus sur avoir les bons membres d'équipage, s'assurer que le bateau a une bonne vision et un bon cap de là où il faut aller, et de s'assurer que tout le monde rame dans la même direction, et je te dirais même instinctivement. Donc ça a été de professionnaliser les équipes, de changer ses processus, de donner de la stratégie pour revenir vraiment à l'essence. Après, la question que tu poses est intéressante sur par rapport à la marque. Alors, si tu regardes les autres marques, c'était d'abord de se dire, tu l'as vu et je suis sûr que tu en as reçu, il y a des rabais partout dans l'industrie. Oui. Ce qui est normal pour une jeune catégorie, parce que tout le monde se dit, bon, bah, j'ai besoin de clientèle, je vais faire des rabais. Mais Cookit avait quelque chose de plus. Et c'est d'aller chercher cette information. Quelle est cette essence de la marque? Et dire, il y a un moment donné où si moi, je décide d'aller me battre sur le même terrain, sur le même champ de bataille que la compétition, je pourrais jamais gagner. Le numéro un mondial a presque 50% des parts de marché mondial. Si je veux gagner, je dois identifier quel est le champ sur lequel nous, on doit aller et d'être en réelle maîtrise de ce champ-là. Et c'est là où ça a été intéressant, c'est de se dire, OK, qui nous sommes? Quelles sont nos forces? Là où on peut faire vraiment la différence? Et là, tu reviens à l'essence de ce que ça a été au début.
Parce que tu vois, c'est intéressant, on avait reçu sur un podcast Louis Tétu qui nous avait dit l'endroit le plus dispendieux à être en affaires, c'est d'arriver numéro 2. Parce que numéro 2, tu fais tous les efforts pour atteindre la première place, mais tu la perds à chaque fois. Et j'imagine que c'est un peu ça l'analyse de ton côté, c'est de te dire à quel endroit qu'on peut être numéro 1. Qu'est-ce qui nous différencie vraiment?
Alors, oui, absolument. En même temps, on est un numéro 2, j'ai envie de dire local, par rapport à un mastodonte international.
Oui.
Qui nous voit même pas sur son radar ou pratiquement pas, j'en suis certain. Et ça, c'est un gigantesque avantage parce que ça te permet de voir ce gros, grand ours qu'ils sont et de se dire comment est-ce que moi, de par mon agilité de petit renard que nous sommes, de pouvoir courir autour, d'être beaucoup plus rapide, et c'est vraiment David et Goliath. Mais c'est vraiment cette capacité à trouver quelles sont nos forces et à réagir.
Bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils ont défini un terrain de jeu qui est très clair. Un terrain de jeu qui, pour moi, est un peu le Walmart de la boîte repas. Et quand tu regardes l'ensemble des grandes marques, quelle que soit la catégorie, tu prends un Microsoft versus un Apple, qui est évidemment la marque que je regarde beaucoup. Toutes ces grandes marques-là se différencient entre deux choses. Pour moi, ça se résume uniquement à ça même. La fonction versus l'émotion. Dans une jeune catégorie comme la nôtre, tout le monde est allé d'abord et avant tout dans la fonction. Tout le monde a couru dans la fonction. Or, je pense que là où nous avons un très grand atout, qui est personnifié par Judith, c'est que nous ne sommes pas nés de cette fonction. Nous sommes d'abord nés d'une émotion et d'une vision très émotive finalement de l'expérience client et de ce qu'on veut offrir aux consommateurs dans l'ensemble de ses besoins culinaires. De quels que soient les moments de sa journée, de sa semaine, de son mois, avec tout notre portfolio qui est très intégré, c'est de cette passion pour l'expérience client. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller jouer dans une émotion qui est très forte chez Judith à la base et qui l'a fait vivre dans la compagnie qu'elle a créée. Et les autres sont purement dans la fonction. Et c'est sur ça qui, pour moi, est finalement notre grande carte à jouer et qui, je pense, va nous faire avoir un grand succès. Et on le voit déjà aujourd'hui arriver. En fait.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse. Ou encore, venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
Et c'est intéressant. Donc, il y a l'ADN de la marque que tu analyses, que tu vois un petit peu ce qui vous différencie. Bien entendu, c'est parti de cette vision-là. Cookit, effectivement, de l'externe, a un brand quand même assez fort. On est capable de comprendre un petit peu la distinction. Et c'est vrai que c'est très, très proche de la fondatrice. Au final, par la suite, comment ça se traduit en stratégie publicitaire? Parce qu'on s'entend, c'est ce qu'on veut. On veut faire grandir l'organisation. Comment tout ça se traduit en messages, en initiatives, en tactiques publicitaires pour continuer à aller chercher cette croissance?
Alors, quand je suis arrivé, il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, t'es chez Cookit, regarde, j'ai reçu telle carte de Good Food ou telle carte de HelloFresh dans ma boîte à mal. Tu devrais faire pareil. » Alors, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure. Ça sert à rien d'aller se battre sur un terrain sur lequel tu gagneras jamais. Donc, quand je parlais tout à l'heure de cet ADN dans lequel on veut aller jouer dans des cartes de l'émotion, et dans des choses beaucoup plus profondes, qui sont les valeurs au niveau du développement durable, de tout ce qui est ESG, de tout ce qui est inclusion, de la communauté, de la bouffe, finalement, que ce soit les restaurateurs, les chefs, les producteurs, que ce soit les producteurs locaux ou les producteurs nationaux. On vient d'avoir d'ailleurs justement la certification d'Aliments du Québec, puisqu'on a un minimum de 50% de nos boîtes qui viennent de producteurs locaux, jusqu'à 75% même en fait. Et donc, cette passion pour quelque chose qui est très ancré dans le sol, finalement, bah tu la fais pas vivre avec des rabais, tu la fais pas vivre avec juste avec des stratégies marketing, d'acquisition, marketing numérique pur, comme on connaît toi et moi habituellement dans des marques très .com, dans des marques très justement dans un commerce en ligne unique que nous avons. Là, je suis vraiment dans un développement de comment est-ce qu'on fait vivre une marque. Et une marque, tu la fais vivre par beaucoup d'aspects différents, que ce soit des canaux traditionnels ou des canaux beaucoup plus numériques, évidemment, que ce soit en haut du funnel marketing ou en bas du funnel dans la conversion. Et c'est vraiment dans un équilibre de ce mix marketing. Et là, on revient à ce qu'on a appris à l'école chacun, là, mais c'est vraiment dans un équilibre de ce mix marketing qu'il faut trouver la capacité de générer de l'émotion. Et donc, par exemple, on a une campagne qui vient de sortir pour le Back to School. Ce qu'on veut, c'est pas leur offrir des rabais parce que on est là pour la rentrée. Ce qu'on veut, c'est leur faire savoir que vous avez un stress. Que tu sois un parent avec des enfants qui ont la rentrée, et je sais pas si tu en as, mais c'est la guerre en ce moment pour les parents. Que ce soit le jeune qui est même en célibataire, mais qui doit se remettre dans un rythme de vie plus sain et revenir au travail dans un focus, que ce soit le professionnel urbain ou quoi que ce soit, on a tous un stress au moment de la rentrée. Et ce stress-là, ça a été de le comprendre et de voir comment est-ce qu'on peut venir les aider, comment est-ce qu'on peut venir leur faire vivre cette émotion de dire « on vous comprend et on est là pour vous, quel que soit le moment de la journée, avec notre prêt à cuisiner pour les moments où vous aurez le temps, avec notre prêt à manger pour les moments où vous aurez moins le temps, avec Menu Extra, qui est la marque que nous avons achetée il y a pas très longtemps, et qui nous permet d'offrir une expérience culinaire de haute gastronomie pour le moment où tu veux célébrer avec ta blonde ou avec ton chum et à des moments importants. Mais tout ça se fait vivre à travers l'émotion et pas dans un rabais au moindre tournant. Je te dirais, il y a une très bonne façon de l'imager aussi, c'est que pour moi, tout ça se fait vivre dans l'expérience client, pas uniquement au niveau de la pub. Ça se vit dans tous les pores de la peau d'une marque. Je m'explique. C'est pas uniquement les messages publicitaires, c'est aussi le produit. C'est aussi notre équipe de service à la clientèle qui le fait vivre à tous les jours. Exemple, là, on vient de sortir des boîtes à lunch pour les enfants et des boîtes à collation pour les enfants pour le retour à l'école. Parce que, crois-moi, le stress que c'est, on est en train de trouver des façons d'y répondre, même dans le produit. On a notre service à la clientèle qui est littéralement à côté de chacun de nos consommateurs à tous les jours. C'est ça, pour moi, l'ADN d'une marque. Il faut le faire vivre dans tout son ensemble, par tous nos pores de peau. Ça va des relations publiques aux produits, à notre site web, etc.
Et par où tu as commencé? C'est ça qui serait intéressant également de voir, parce que je trouve ça tellement fascinant ce que tu dis, retourner à l'ADN de la marque, s'assurer que chaque expérience, chaque contact avec nos consommateurs soit amélioré selon ce qu'on essaye de projeter comme image. On commence où? Après l'avoir défini, est-ce qu'on recommence vraiment à tous ces points de contact avec nos clients par message marketing? Parce que j'ai l'impression que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on comprend l'essence de ton message et par la suite, on se pose la question, comment qu'on peut l'appliquer?
Alors, je pense que avant tout, ce que j'ai fait toute ma carrière, c'est qu'il faut d'abord et avant tout avoir la bonne équipe. Parce que le seul moyen de faire ce dont je te parle, c'est d'avoir une parfaite communication, avoir des processus très agiles, très capables de s'adapter rapidement, surtout dans le monde d'aujourd'hui où l'adaptation, elle est clé, elle est même pas clé. En fait, c'est le seul moyen de survivre. Mais pour ça, il faut que tu es des gens intelligents et très experts dans leur domaine, où chacun travaille en pure collaboration et en même temps, t'es autant dans un équilibre entre la collaboration et la confiance que l'autre est en train de faire la bonne chose dans son expertise et que tu as régulièrement des points de contact entre ces gens-là pour s'assurer que tout ça s'attache ensemble. Donc, avant d'être dans la pub, c'est d'abord à l'interne, les bonnes personnes, les bons process. Est-ce que tu peux tout faire changer en quelques mois et être à 100%? Non, c'est sûr. C'est ce qu'on a fait au début. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à 100%? Non. Mais on est beaucoup mieux que ce qu'on était encore il y a quelques mois. C'est une constante optimisation qu'on doit faire. Et après, bah ça se vit dans l'expression de la marque et dans ce qu'on fait en ligne. Donc dans les choses que j'ai faites en premier, c'était cette stratégie, cette vision, cette restructuration ensuite des équipes et des process. S'assurer qu'on a les bons talents, c'est bien. Les bons process, c'est bien. Mais après, c'était d'avoir cette stratégie qui est devenue une stratégie de marque évidemment. Et cette stratégie de marque, elle a découlé sur des choix difficile. Par exemple, si nous sommes justement dans l'émotion, si on veut faire vivre quelque chose de beaucoup plus long terme avec notre client, si on veut maximiser cette relation avec le client, ben on va couper les rabais. Et ça a été un des premiers grands coups de barre qu'on a donné au cap. On va arrêter les rabais. On va apporter de la valeur. On va comprendre ce que nos consommateurs veulent. On a été chercher des gens à l'interne, ce qu'on n'avait pas avant, qui sont experts dans l'insight et la data. On a mis le consommateur au milieu, et dire le consommateur au milieu, c'est la data, donc c'est vraiment la data et la compréhension de ce conso, et on parle continuellement à notre consommateur et nos différents consommateurs. Continuellement. C'est devenu notre livre de base. On peut pas faire sans ça à chaque semaine. On parle au consommateur. Et ce consommateur, on l'écoute et on lui répond le plus vite possible avec les choix qui marche dans notre stratégie, dans notre direction. Et ça nous permet de faire de très bons choix qu'on a fait dernièrement pour apporter beaucoup plus de valeur. Et plus tu apportes de la valeur à ce consommateur-là, moins tu as besoin de faire de publicité à coups de millions de dollars, parce que une vraie marque n'est pas censée avoir à se vendre continuellement à rabais. Elle doit apporter de la valeur. Et si tu es capable d'apporter cette valeur et de la faire savoir et que les gens en parlent, c'est là où l'équilibre va se créer. Et c'est ça a été vraiment le premier coup de barre dans le cap. Après ça, ça a été de revoir complètement notre stratégie d'investissement. Et on a commencé, alors là c'est purement, on aurait pu faire le contraire. Moi j'ai décidé de commencer par en bas du funnel et m'assurer qu'en bas du funnel marketing, on était optimal. On allait vraiment chercher le maximum de ce qu'on pouvait aller chercher en bas du funnel. Et au fur et à mesure, on a commencé à remonter de la conversion vers la considération, l'intérêt, et après, évidemment, tout ce qui est awareness. Mais cette notoriété, ça sert à rien, selon moi, de la faire et de la travailler quand en bas du funnel, tu sais même pas si t'es en train de fuir complètement de tous les côtés. Donc, ça a été notre focus avant tout, et ça marche très bien.
Et dis-moi, là, t'as parlé, bon, on améliore un petit peu l'expérience, on arrête les rabais. Dis-moi, impact court terme versus impact long terme ou moyen terme, je pense que les choses ont l'air de bien se dérouler, mais à court terme, ça a quand même dû être un certain choc, peut-être moins de ventes. Comment tout ça s'est mis en place?
Je pense que, premièrement, on avait peur d'avoir peur. Ensuite, on a eu peur, en effet, que ça chute énormément. Et donc ça, d'abord, tu y vas avec parcimonie, tu fais des tests, tu prends des audiences, tu testes sur des audiences. On avait aussi une réalité, c'est qu'on savait qu'on avait une audience historique qu'on voulait pas perdre et une audience qu'on n'avait jamais vraiment bien activée, qu'on voulait aller chercher. Cette audience-là, je pense pas qu'ils ont besoin de rabais. Je pense qu'ils ont besoin justement de fonds. Et de vrai, pas forcément de rabais. Et au fur et à mesure, oui, ça a eu un impact, mais qu'on a toujours mesuré, qu'on a toujours équilibré entre le retour que ça nous apporte de l'autre côté. Parce qu'à la fin, on est dans une industrie très jeune, avec des gens très jeunes qui les activent, où on regarde beaucoup l'acquisition. C'est bien l'acquisition, mais pour moi, ce qui compte encore plus, c'est le cycle de vie du client et la longueur de cette relation et la valeur de cette relation qu'on a ensemble. À partir du moment où on la maximise, c'est ce qu'on a fait, tout s'équilibre. Et en fait, à court terme, ça s'est très vite équilibré. Et à moyen, à long terme, ça va plus que s'équilibrer. En fait, ça va être absolument gagnant, on le voit.
Et dis-moi, on parle un petit peu, si on va un petit peu plus dans le volet tactique, le bas du tunnel de vente, vous l'ajustez, vous l'améliorez, vous essayez de remonter au haut du tunnel de conversion. Et qu'en est-il ultimement, tu as parlé d'investissement, revoir la stratégie d'investissement, qu'en est-il de cette stratégie d'investissement pour faire davantage connaître la marque? Je te pose la question, Mathias, pourquoi? Parce que on a reçu beaucoup de directeurs marketing sur le podcast récemment, de boîtes à succès comme Cookit qui vendent beaucoup en ligne. On dirait qu'il y a une narrative qui revient constamment en ce moment, c'est que on regarde pour faire le mieux avec nos investissements numériques, mais de plus en plus, on regarde pour peut-être faire des investissements dans du traditionnel, ce qui était quasiment impossible il y a quelques années de ça.
Il y a un mix énorme de beaucoup de concepts là-dedans, en fait. Le premier, c'est que le temps que toi et moi et tout le monde qui nous écoute ont en ce moment à partager dans leur journée, il est restreint. Ce temps d'écoute, ce temps d'attention, on en parle énormément en marketing, mais c'est une pure vérité. Il y a un moment donné où tu peux être exposé à un certain nombre de messages et à les retenir. Il y a un moment donné où tu en as tellement que ça suffit. Je pense que dans la dernière décennie, ce nombre de messages s'est tellement multiplié que évidemment, là, on commence à se dire, bon, va falloir trouver les moyens les plus créatifs pour aller chercher cette attention-là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense qu'on a été très, très loin dans les médias sociaux. Les marques ont énormément bénéficié des médias sociaux. Ils en ont bénéficié tout autant, je suis d'accord. Mais on en a énormément bénéficié. Ça a coûté très peu cher par rapport à ce que nous coûtait un ancien modèle. Et tout ça, ça a évolué. Et puis ça a commencé à coûter de plus en plus cher. L'autre élément, c'est qu'en plus, les GAFAM ont très, très bien compris qu'ils avaient désormais un contrôle et un monopole parfait. On en parle beaucoup dans les actualités. Et qui leur permettait de faire monter les prix et les enchères. Aujourd'hui, tu peux plus être sur une marque sur Facebook, on le sait tous, sans dépenser d'argent et croire que tu vas avoir de l'engagement sur tes contenus. C'est impossible. Donc, tu mélanges toutes ces choses-là avec le fait que le consommateur est bombardé de messages en permanence. Je pense qu'aujourd'hui, puis moi, ça a toujours été ma stratégie, le seul moyen, je pense, de retenir vraiment l'attention d'un consommateur, c'est d'être sur tous les canaux, c'est d'être autant dans les relations publiques et de faire parler de la marque que d'être dans des médias plus traditionnels. Après, les médias traditionnels ont aussi baissé leur prix, donc il y a des choses intéressantes à aller chercher dans les médias traditionnels. Ils ont des audiences qui sont très engagées. Donc, je pense qu'il y a encore, et puis je pense qu'au Québec, je pense que même la télé au Québec est encore un média qui performe très très bien. La radio est un médium qui marche super bien. Donc, une marque aujourd'hui qui a un peu de moyens et qui veut faire les choses intelligemment, je pense qu'il faut qu'elle gère un bel équilibre entre tout ça. Et c'est sûr qu'une marque comme la nôtre, qui est uniquement en ligne, elle va prioriser l'investissement numérique. Maintenant, je pense que il y a beaucoup d'autres choses que le numérique qui ont été mis de côté et sur lesquelles on est tous en train de dire, ben, il faut revenir. Parce que si tu veux faire vivre l'expérience de marque complète, ça se passe sur tous les canaux.
C'est donc vrai et tellement intéressant. Donc, est-ce que je peux entendre là-dedans que chez Cookit, au moment où on se parle, on regarde le maximum de canaux et pas seulement dans le numérique?
Alors, comme je te disais, on a bouché les trous du funnel. On remonte tranquillement. On a plein de belles choses qui s'en viennent justement. Mais vous avez remarqué certainement que Judith était invitée au Dragon il y a quelques temps dans l'œil du Dragon. Elle est passée pendant 20 minutes sur RDI avec une très belle entrevue sur le côté business de Cookit et ce qu'elle a fait. Donc oui, on a beaucoup d'actions qui sont sur différents moments de l'expérience client. On a des consommateurs, mais on a aussi des partenaires d'affaires. Donc c'est d'être capable de rejoindre toutes ces audiences avec le bon message au bon moment. Il y a rien de rocket science, on n'est pas en train de réinventer la roue. Je pense que c'est vraiment de faire les choses avec équilibre et bien fait, de savoir dépenser le bon montant d'argent par rapport à notre besoin. On est vraiment dans une notion de right sizing, je dirais, dans notre industrie, à tous les niveaux, que ce soit à l'interne ou même dans nos efforts marketing, et dans l'équilibre. Et je pense qu'une marque qui est équilibrée est certainement dans un bon choix. Après, tu peux prendre des choix leap of faith dans lequel tu vas tout mettre dans un seul endroit. Je pense pas qu'aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, ce soit une bonne stratégie.
Intéressant. Et dis-moi, les 12, 24, les 36 prochains mois pour Cookit au niveau marketing, au niveau prise de marché, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à travailler et livrer tout ce que je viens de te raconter et faire en sorte qu'un jour, tout ce que j'ai dit là, bah, c'est pas moi qui le dira, ça sera les consommateurs, ce sera nos compétiteurs, ce sera les médias qui diront « Ah ouais, Cookit, c'est ça, c'est ces valeurs-là, c'est cette façon de vivre, c'est ces produits, etc. etc. » Et c'est de s'assurer finalement que le porte-voix, on le donne aux autres et pas à nous. Pour moi, finalement, les trois prochaines années, c'est de m'assurer d'un point de vue marketing qu'on atteint ça, c'est de m'assurer qu'on met le consommateur au milieu, avant tout, et qu'on s'assure autant en marketing qu'en produit, qu'en service à la clientèle. Donc, tout ce qui touche à l'expérience client de près ou de loin, au niveau technologique, au niveau numérique, tout ce qui touche à ça, notre consommateur, il est au milieu. On capte parfaitement sa donnée et on sait lui faire vivre la meilleure des expériences grâce à cette donnée-là. Et puis, le troisième élément, continuer. En anglais, on a un dicton à l'interne, une sorte de nouveau slogan, si tu veux, qui s'appelle « Hungry Ones », ceux qui ont faim, avec tout ce que ça peut avoir de second sens. C'est garder cette mentalité, cette passion, et d'aller conquérir le monde, parce que je pense qu'on a une position magnifique à offrir aux consommateurs. On a vraiment une offre intéressante pour le consommateur, mais que ce soit au Québec, au Canada et ailleurs. Cette offre-là, aujourd'hui, personne n'y répond. Personne. Donc, si on est capable de croire en nous-mêmes assez, je pense qu'on va être capable d'aller faire de grandes choses aussi ailleurs.
Et je te pose une question, Mathias. C'est la première personne à qui je pose cette question, mais je pense que je vais prendre une habitude avec mes invités sur le podcast. Dans son ensemble, comment vois-tu l'avenir du marketing numérique? Est-ce que tu penses que ça va grandement changer? Est-ce que de plus en plus les canaux publicitaires vont travailler en silo? Est-ce qu'on va revenir à la base même du marketing? Tout est orienté au niveau du message et pas nécessairement sur les ciblages excessivement précis. Comment vois-tu l'avenir, la suite?
Je pense que c'est marrant parce que je viens du milieu de la pub et du brand par ma famille. J'ai même travaillé moi-même dedans beaucoup. Je pense que on a mis beaucoup de côté l'émotion, justement, dont je te parlais tout à l'heure. Je pense que dans les années 80, 90, il y a un travail incroyable qui se faisait au niveau marketing dans l'émotion. Ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. L'avènement du numérique a apporté tout le marketing de performance, tout le data science. On a été à fond là-dedans. Je pense que la première chose, c'est qu'on va devoir retourner vers un équilibre. Je pense que les agences de pub vont avoir de belles années si elles sont capables de justement d'aller leverager cette data-là et de faire vivre l'expérience justement à un autre niveau grâce à l'émotion. La deuxième chose que je te dirais, c'est l'intelligence artificielle est en train. C'est pas ça va, c'est en train de révolutionner notre monde. C'est la vraie nouvelle révolution après la révolution industrielle, je pense. C'est plus gros, à mon avis, que le reste. Et le marketing va être complètement réinventé, comme beaucoup d'autres métiers, va être complètement réinventé là-dessus. Toutes nos équipes, et je travaille très fort à ce que toutes mes équipes chez Cookit intègrent l'intelligence artificielle dans leurs opérations quotidiennes. Et je pense que ça va vraiment complètement changer notre approche. Et ça le fait déjà. Le troisième élément, je dirais, tout à l'heure je parlais d'émotion, je parlais d'intelligence artificielle. Je crois que la justesse du message, la créativité au niveau du message va devenir une chose encore plus importante, basée sur les deux premiers éléments, sur l'émotion et sur l'intelligence artificielle. Ça va être une justesse du message, donc le moment, le temps, le canal, tout ça dont on a énormément parlé dans les dernières années. Évidemment, toute l'histoire de la protection de la donnée personnelle est venue jouer dans un jeu de quilles la chose dernièrement, et je pense que ça va revenir très clairement. On va avoir besoin de messages extrêmement pertinents de par la quantité de messages qui vont nous entourer, surtout si tu penses à la réalité virtuelle et augmentée qui va s'en venir dans les 10 à 15 prochaines années. Ça va être formidable. Donc, il va falloir être d'une pertinence incroyable. Et là, ça va demander des systèmes extrêmement intelligents et des gens très formés pour le faire.
Intéressant. Écoute, ça a été totalement fantastique, Mathias. Si on veut en apprendre un petit peu plus sur toi ou sur Cookit, l'endroit le plus simple pour vous découvrir?
Notre site web, nos médias sociaux, Instagram, Facebook, évidemment. Et puis, venez goûter à une autre façon de manger. Vous allez découvrir tout un monde, en fait, que j'ai découvert moi-même en joignant la famille, qui révolutionne vraiment, je pense. Quelle va être l'expérience culinaire dans 10-15 ans? Parce que tu m'as pas posé la question. Dans 10-15 ans, comment allons-nous consommer la bouffe? Je pense qu'il y a une révolution s'en vient, parce que je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de consommateurs comme moi qui ont un grand plaisir à faire l'épicerie. Par contre, manger, consommer, cuisiner même,
ouais,
ça peut être plein de bonheur, d'amour partagé avec les gens qui t'entourent, d'amour pour soi-même,
bien sûr,
au niveau de la santé, etc. Et ça, il y a une révolution qui est en train de se passer. Je pense que nous sommes dans les acteurs les mieux placés pour se positionner pour cet avenir-là.
Fantastique, Mathias. Ça a été totalement fascinant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercialité.